France Musique. Les grands entretiens. Rodolphe Bruno Boulmier.
Je suis Mozart Obeskite, né en Lituanie. Je suis pianiste, concertiste.
On a parlé de l'enfance. À un moment, il a fallu quitter Vilnius pour aller encore plus loin, quitter cette école pour enfants surdoués. Ça a été la Russie à ce moment-là?
Oui, je suis allée chez le grand professeur Yakov Lier. C'était une pointure, un des trois grands professeurs de l'époque à Moscou. Vraiment les grands, grands, grands. Il avait le conservatoire de Moscou, c'est le mec de la musique sans doute. Mais il avait trois vraiment chez qui tout le monde voulait, et Flier était un d'eux. Et je suis allée le voir avec ma maman, et il m'a reçu, il m'a écouté, il a dit « si tu réussis tes examens, je te prends dans ma classe ». Et ça, c'est absolument inouï, parce que d'abord, réussir les examens, c'est très difficile, évidemment. Il y a centaines de personnes sur une place de toute l'Union soviétique. Et puis avoir une sorte d'assurance si je rentre que je serai chez ce professeur-là, c'était absolument sublime.
Peut-être qu'on peut dire un mot de qui est Jakob Flier. C'est un grand pianiste qui a même un moment été comparé à Gilels. C'est quelqu'un qui a connu Shostakovich, Prokofiev, Kabalevski. Vous l'avez sans doute entendu en concert. Quel genre de personnage était-il? Il est mort assez jeune, je crois, à 65 ans.
C'est ça. En fait, j'ai étudié très peu avec lui. J'étais avec Mikhail Pletnev, on était les deux dernières élèves de Yakov Flier. J'ai étudié que 2 ans avec Flier. Après, il est parti. J'ai étudié chez lui à la maison, encore une fois de plus, puisqu'il était déjà un peu souffrant. Il n'allait pas au conservatoire, donc il me recevait avec les habits un peu décontractés, dans sa salle de travail avec 2 pianos. Et on était évidemment les élèves du conservatoire de Moscou. Il habitait en face du conservatoire de Moscou. Et ce qui m'a absolument fascinée, c'est la sonorité de son piano. La manière de tirer le son de son piano. Et je ne vais jamais oublier cette ampleur, ce côté chantant, ces côtés liés, ces côtés legato, qui est absolument propre à l'école russe. Il habitait dans la même maison avec un autre grand, avec Milstein, avec Kabalevski. Les voisins venaient de temps en temps écouter les cours. Aussi présence des gens comme Feiermann, Feldsmann, c'était aussi ses anciens élèves, et aussi Misha Pletnev, qui était absolument exceptionnel. J'ai plein de petits souvenirs. Je me rappelle, on était tous assis en écoutant les uns les autres. Et Misha Pletnev a joué le 3e concerto de Beethoven. Et Yakov Flier a dit, écoute, tu réussis bien. Est-ce que tu voudrais pas prendre un autre concerto? Et puis une semaine après, il a dit à Misha, est-ce que tu as appris quelque chose? Il a dit, vous voulez lequel concerto? Donc, dans une semaine. Donc, ce sont les très, très bons souvenirs. We'll be right back.
Jakob Fliehr avait joué le troisième de Rachmaninoff avec Bernstein, je crois. C'était un des pianistes qui avait pu jouer aux États-Unis.
Tout à fait. C'était un pianiste qui était un des plus prometteurs de l'Union soviétique. Gilels Richter Fliehr, en fait, c'était ça. Désigné comme les trois plus importants pianistes de l'Union soviétique. Et ils ont gagné un concours à l'étranger. Or, Fliehr avait un problème de la main, de tendinite, je ne saurais pas dire. Et il s'arrêtait, il reprenait, il s'arrêtait, il reprenait. Et comme ça, il est devenu quand même plutôt professeur que pianiste. Seulement, il avait son grand retour dans les années 70, je crois. J'étais pas là, évidemment. Et il a fait son troisième Rachmaninoff, inoubliable, m'a-t-on dit.
Et Richter, vous l'avez entendu à l'époque, il était à Moscou aussi quand vous étiez
étudiante. Mais ça, c'était un total idole. D'abord, quand j'étais petite, quand à la télévision, il y avait l'apparition de Richter. Toute la maison criait en disant « viens vite, viens vite, viens vite ». Il joue Appassionata et là, on était cloués à la télévision. Donc c'était un mythe pour moi depuis mon tendre enfance. À Moscou, évidemment, je voulais l'écouter quand j'étais là. Cependant, c'est impossible de trouver les billets. Alors, j'ai fait vraiment un sort d'exploit. Je suis restée dans les caves de Bolchoï pendant une dizaine d'heures, la salle Bolchoï de conservatoire. Et puis, il y avait la gare qui est venue vérifier les caves, qui a voulu me chasser de là. J'ai résisté et puis j'ai pleuré. Et on m'a laissé entrer. Donc, j'ai les souvenirs incroyables pour ce concert. J'ai passé de midi jusqu'à le soir pour écouter ce concert. Et j'ai écouté ce concert. C'est une fascination. Oui. J'ai aussi assisté à son dernier concert sans partition. Il a joué les préludes et fugues de Bach. Et d'un coup, il avait un immense trou de mémoire qui est absolument impossible de croire chez Richter. Et il a pataugé un peu. On était tous enfoncés dans les chaises. Et puis il est parti, il est revenu avec la partition et il ne l'a plus quitté. C'était assez effrayant.
En 1977, Jakob Fliehr va mourir. Comment va se passer la suite de vos études à Moscou ?
C'était très dramatique pour moi, parce que je suis arrivée en septembre 1976 à Moscou, et voilà, un an après, il nous a quittés. Et il nous a quittés dans le moment très dramatique, c'était le concours All Union, qui était pour les meilleurs pianistes de toute l'Union soviétique. Vous pouvez imaginer le niveau. Et il devait être président du jury en Leningrad, à Saint-Pétersbourg. Et je me suis présentée pour ce concours avec deux autres élèves de sa classe, notamment Mikhail Pletnev. Quand on est arrivé là-bas, on a su qu'il était hospitalisé. Et il a dit, ils sont perdus, mes enfants, ils sont perdus, ils vont être perdus, mes enfants. Donc. Et puis, il nous a dit, tenez-vous bon, faites ça pour moi, etc. Et donc, Pletnyov a gagné premier prix, j'ai gagné troisième. C'était quelque chose de très émouvant pour nous. Après, j'ai cherché le professeur de la même veine, des mêmes origines musicales. C'est la ligne de Konstantin Igoumnov, le grand professeur, qui était professeur de Flier, qui était aussi professeur de Oborin. Et Oborin n'était plus là, mais il avait autre professeur de Ovol, qui était Mikhail Voskresensky, qui était élève de Oborin. Et toute cette ligne-là vient au fait de Ziloty et à part Ziloty vers Liszt. Donc c'est une ligne listienne que je cherchais toujours. Et donc je suis entrée dans la classe de Mikhail Voskresensky, mais avant, en attendant d'entrer dans la classe de Voskresensky, je travaillais avec Béla Davidovitch, qui était disciple de Flier et qui, avant de partir aux États-Unis, donnait quelques cours quand Flier était malade et quand il était décédé. Donc j'ai profité de l'enseignement de cette très très grande dame de piano.
Qui est toujours vivante, je crois.
Toujours vivante à New York. Je le rencontre quand je suis aux États-Unis.
Elle avait gagné le concours Chopin ou elle avait participé au concours Chopin, je crois.
Elle a gagné le concours Chopin.
Quel genre de femme était-elle ?
Élégante. C'était mon exemple de femme pianiste. Très dans la lignée de l'école chantante. Elle était aussi très, très structure, très forme. Et jusque-là, je me rappelle des conseils pour la forme des œuvres et aussi les conseils pour une femme pianiste, toujours au talon de 9-10 cm, toujours bien coiffée, toujours charmante.
Les grands entretiens de Mouzaro Basquité, France Musique.
Et c'était comment la Russie dans les années 70? Vous viviez donc à Moscou, vous aviez quitté votre tante, votre mère. Et c'était comment aussi le conservatoire, ce lieu mythique, ce conservatoire Tchaïkovski? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette époque?
C'était la fin des années 70, c'était presque 80. Et c'était... La période où Moscou avait tout, mais c'était Moscou soviétique, c'était vraiment Moscou brejnevienne. Ce qui veut dire que Moscou était vitrine pour l'Occident et pour toute la Russie de la réussite, mais le pays, la Russie, crevait de faim. Les gens venaient acheter, s'approvisionner une fois par semaine à Moscou. Ce qui veut dire qu'il avait les queues dans les magasins de nourriture absolument énormes. Sachant ça, ma maman a dit « Tu vas pas faire 6 heures de queue pour acheter un fromage, je vais t'envoyer. » Donc ma mère a commencé à m'envoyer chaque dimanche par le train de nuit, en ration pour une semaine. Donc je venais avec mes copains, les garçons, à la station Belarus. Et on cherchait ces deux valises, pleines de poulet, beurre, bouillon, je ne sais plus quoi. tout préparé par les soins de ma maman. Évidemment, je ne mangeais pas seule, je devais nourrir les Sherpas aussi, qui m'ont aidé à le transporter. Mais c'était une énorme aide.
Et le conservatoire de Moscou, c'est là où vous avez rencontré par exemple des gens comme Mikhail Pletnev, ce genre de musiciens, toute cette génération?
Le conservatoire de Moscou était le lieu sublime, donc c'était le lieu à part, le lieu de la vraie culture, de la vraie intelligentsia qui n'avait rien à voir avec ce qui était dehors, avec cette brutalité, délabrement, cette absence de tout individualisme dehors. Donc, personnalité n'existait pas. Et à Moscou, au conservatoire, justement, il avait les personnalités. Et il fallait être quelqu'un dans le sens de particularité pour être aimé, respecté, etc. Cependant, il avait les autres disciplines que la musique. Et les autres disciplines étaient le communisme scientifique, l'économie politique, la langue. Donc c'était un vrai bourrage de crâne, très très complexe, très difficile. Tous les livres de Marx, Engels, Lénine, tout ça y passait. Hein, et il fallait passer les examens. Et donc ceux qui se préparaient pour les concours ou pour les grands exploits professionnels musicaux devaient absolument passer les grands examens de communisme scientifique et économie politique. Et si vous passez pas ça, vous partez nulle part. Le climat était assez horrible. Mais nous, on avait notre oasis, c'est le foyer des étudiants, où il y avait un melting pot des étrangers aussi, des pays quand même acceptés par l'Union soviétique. Il n'y avait pas d'Américains, par exemple, il n'y avait pas de Japonais. Mais il avait quand même quelques Indiens, il avait d'abord tout le bloc de l'Est était là, qui était pour nous aussi étrangers, les Hongrois, les Yougoslaves, les Polonais, qui étaient beaucoup mieux habillés que nous, qui vendaient les beaux jeans qu'on achetait chez eux, qui vendaient les magnétophones avec les cassettes, même de la musique totalement interdite, comme Pink Floyd ou autre.
Vous allez faire le concours de Budapest, c'est ça, concours Liszt Bartók, où vous allez remporter le premier prix.
81.
Oui. Là aussi, c'était pour vous une étape qui vous semblait nécessaire après les études à Moscou, Liszt, Bartók, ce concours.
Vous savez, on n'avait pas de droit tout simplement s'inscrire à un concours. Il y avait le concours intérieur à faire et puis le concours politique à faire. Donc moi, j'ai pas pu participer aux autres concours à cause de ça. Donc j'ai participé seulement à quelques concours où j'avais l'accès par cette présélection. Donc le concours de Liszt, j'ai bien réussi. C'était la présélection qui se fait en Sibérie, en Novosibirsk, qu'il fallait aller 7 heures de vol vers la Sibérie pour faire cette présélection. C'était avec le programme entier de ce concours-là, Et on était les meilleurs pianistes de l'Union soviétique. On était, je ne sais plus, 40. Et on était choisis deux pour participer déjà. Donc, vous voyez un peu le... Donc, on était armés jusque dans, évidemment. Et j'étais très contente de jouer dans ce concours. Et j'ai fait connaissance des magnifiques musiciens avec qui je suis restée en contact et en amitié toute ma vie. C'est Zoltán Kocsis, Dezső Ranki, et toute une autre série des Hongrois qui étaient soit de mon âge, soit c'était les membres de mon jury, ou Antal Dorati qui est venu me chercher en Russie pour jouer avec lui, mais il n'a pas réussi. Car le concours Liszt, en même temps, en ouvrant toutes les portes, j'ai reçu plein de contrats, m'a refermé le lendemain, puisque j'étais interdite de passeport pendant 7 ans. Donc j'ai pas pu accomplir aucun de ces contrats.
Pourquoi on vous a interdit de passeport? C'était pareil pour tous les pianistes ou est-ce que c'était vous particulièrement?
Vous savez, comme je vous ai dit, quand j'étais l'enfant, j'étais une bonne patte pour faire l'homme nouveau, n'est-ce pas? Et puis avec l'expérience de vie, on commence à penser, on commence à dire et il y a les choses qui se gâtent. Il y avait plusieurs raisons. Il y avait la Lituanie qui commençait à s'éveiller. Je ne suis pas restée indifférente au mouvement naissant de l'indépendance. Le premier président par intérim était Vytautas Landsbergis, premier président de Lituanie. Et c'était finalement la connaissance très proche, puisque sa fille a étudié avec moi dans la même classe. Et après, j'ai travaillé avec lui au même enseigne au conservatoire de Lituanie. Donc, j'étais proche de ces gens-là. J'ai participé au meeting. Et puis, il avait une autre chose. Il avait, quand on partait à l'étranger, on était toujours suivi par un KGBiste, par quelqu'un qui était à côté de vous, qui surveillait, qui disait, tu fais ça, tu fais pas ça, tu dois pas partir, tu dois pas accepter. Quelqu'un qui s'appelait pour les autres journalistes. Il disait qu'il est là pour écrire l'article sur le concours et sur moi. Mais je savais très bien, c'était pas un secret. Et je n'ai pas plu à cette personne. Et il a fait très mauvais rapport sur moi.
Et donc un jour, on vient chez vous et on vous prend votre passeport? Comment ça se passe?
Là, il faut aussi savoir que on était en fait comme dans un prison. On n'avait pas de passeport. On avait seulement le passeport d'intérieur. Donc c'est une hypocrisie, puisque c'est une carte d'identité qui ne permet pas de traverser la frontière. Donc passeport, il fallait le chercher en Russie, à Moscou. C'est le seul endroit où tout le monde cherchait le passeport. Et il avait un seul aéroport international, c'est à Moscou. Donc tout était verrouillé. Je suis revenue de Budapest. J'ai dû rendre mon passeport. Et puis voilà.
Sans doute, Mouzsa Roubaskité se sent-elle proche de l'univers de Chostakovitch qui avait subi lui aussi les pressions du système communiste. C'est avec le mouvement lent du deuxième concerto pour piano que nous quittons la pianiste. Nous la retrouverons demain en marche vers l'indépendance de son pays, la Lituanie. Je vous signale également que Mouzsa Roubaskité a écrit ses mémoires qui sont en attente d'un éditeur. Cette émission, que vous pouvez podcaster sur le site des Grands Entretiens, a été réalisée par Gilles Blanchard avec Raymond Albuy, Valérie Lavalard et Flora Sternadel.
À réécouter sur francemusique.fr.